France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission de géographie et des enjeux globaux de France Culture. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble et en direct de 16h à 17h. Et nous allons commencer par un son d'actualité très récent.
Pegida, ce mouvement se disant contre l'islamisation de l'Occident, attend de nouveau 10 000 personnes à Dresde. D'autres rassemblements plus symboliques sont prévus à Varsovie, Bratislava, Tallinn, mais aussi Amsterdam, Birmingham, Montpellier, Bordeaux ou Saint-Brieuc. Une manifestation prévue à Breslau, en Pologne, a finalement été annulée en dernière minute à cause de l'opposition de l'extrême droite locale qui reproche à Pegida de vouloir germaniser l'Europe. Des contre-manifestations sont prévues à Copenhague, Amsterdam, Varsovie et Dresde contre le racisme et l'intolérance. En Allemagne, Pegida, lancé à l'automne 2014, avait connu un lent déclin après une apogée à l'hiver dernier. Le mouvement semble redresser la tête depuis l'arrivée de 1 million de réfugiés en Allemagne.
C'était donc un papier de Nathalie Versio. Diffusé dans le journal de 7h de France Culture, pas plus tard que samedi dernier. Alors, ce qu'on peut en dire ici, maintenant, dans Planète Terre, c'est que depuis l'arrivée d'un million de migrants en une année en Europe, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'identité et d'altérité. Nous et les autres, c'est le sujet du moment, et on vient de l'entendre de façon parfois un peu crispée et de plus en plus. Il est vrai que ce sujet est également un sujet important dans de nombreuses régions du monde. Or, nous et les autres n'existent que dans une visualisation imaginée de leurs espaces, de leurs territoires et de leurs images. C'est du moins la thèse de mes deux invités, Bernard Debarbieux et Jean-François Stazac. L'un et l'autre professeurs à l'université de Genève, ils sont deux des chefs de file mondiaux, rien que ça, de la nouvelle géographie culturelle. Alors, dans deux ouvrages qu'ils viennent de publier et qui se croisent opportunément, ils nous proposent un regard décentré sur cette fabrique des imaginaires. Identité collective et altérité, la fabrique des imaginaires, c'est bien le sujet de Planète Terre cette semaine. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Bernard Debarbieux, vous êtes l'auteur de L'espace de l'imaginaire, un livre que vous avez publié il y a quelques mois aux éditions du CNRS. Jean-François Stazac, vous êtes le co-auteur de Clichés exotiques, le tour du monde en photographie, un beau livre, comme on dit, que vous avez publié aux éditions de Monza en 2016, hein, janvier 2016 ou décembre 2015 ?
2015.
C'est ça, hein, tout à fait à la fin de l'année. C'était, comment dire, pour Noël en quelque sorte. Les auditeurs se souviennent peut-être que début octobre, en écho au Festival de géographie de Saint-Dié, vous nous aviez entretenu à ce même micro des pays de fiction en général et du Brozoufland en particulier, n'est-ce pas ?
C'est juste.
Et alors, comment le Brozoufland traverse-t-il la crise des migrants et la chute des cours de la bourse, Jean-François Stazac ?
Ah là, vous me prenez un peu de cours. Hein.
Vous n'avez pas révisé vos fiches. Je ne sais pas, parce que c'est un pays de fiction qu'il ne faut pas les tenir à jour. Mais alors, parlons d'un pays réel. Vous menez l'un et l'autre vos travaux depuis la Suisse. Pays de migrants, s'il en est. Coïncidence, hasard ou nécessité, Bernard Debarbieux ?
Ça supposerait un peu d'introspection pour être sûr de vous répondre de façon tout à fait juste. Je pense qu'on n'arrive pas à Genève tout à fait par hasard, quand elle n'est pas genevoise de naissance, genevoise de souche, si on parle peut-être de ces expressions dans le courant de l'émission. Donc c'est vrai que Genève est une ville très attractive pour ça, quand on est intéressé par la diversité du monde et par les relations interculturelles, les contacts et les frictions parfois, c'est une ville passionnante.
Et vous diriez que la Suisse est un État-nation comme les autres, ou pas ? On se pose la question, puisqu'elle n'est toujours pas rentrée dans l'Union européenne, à la suite d'un référendum d'ailleurs, où le non l'avait emporté.
Alors le référendum plus exactement porté sur l'espace économique européen. On n'a jamais posé la question officiellement aux citoyens helvétiques.
Autant pour
si
moi.
Si vous voulez rentrer dans l'Union européenne ou pas. Mais a priori, si vous voulez pas rentrer dans l'espace économique, vous voulez évidemment encore moins rentrer dans l'Union européenne. Est-ce que c'est un État-nation? C'est une question que je me posais pas avant d'arriver à Genève et que je me pose depuis que je donne un cours de première année à mes étudiants d'introduction à la géographie où je leur parle beaucoup de l'État-nation. Et à plusieurs reprises, des étudiants sont venus me voir à la fin du cours en me disant « Mais c'est quoi vraiment un État-nation ? » Parce que moi, en tant que Suisse, je comprends pas. Et c'est vrai qu'on a un modèle d'État-nation, un modèle un peu générique qui nous est très précieux pour comprendre et penser ce qui s'est passé en Europe au 19e siècle et puis au 20e siècle. Mais pour la Suisse, ça marche pas très bien parce qu'il n'y a pas de langue commune, il n'y a pas de religion commune, il n'y a pas les indicateurs de base auxquels on est tellement habitué en France en particulier pour définir l'État-nation. Donc la question se pose vraiment.
Et pourtant, on a l'impression, quand on va en Suisse, qu'il y a une identité territoriale très forte et que, en tous les cas, mythiquement ou classiquement, l'identité territoriale est vraiment constitutive d'une identité collective comme l'identité nationale.
Alors moi j'ai tendance à penser que le point fort de l'identité helvétique et ce qui fait tenir la Suisse très bien finalement, hein, malgré la diversité de ses composantes, c'est pas tellement la référence au territoire, c'est plutôt la référence à une culture politique. Et ça c'est vraiment le ciment des Suisses par-delà les clivages linguistiques ou religieux. Après la figure du territoire et la référence aux Alpes, bien sûr, elle a été instrumentalisée au milieu du 19e siècle et puis elle a été très forte, j'aurais tendance à penser qu'elle est un petit peu moins maintenant. Et notamment elle est un peu moins maintenant parce que cette référence obsessionnelle à la montagne, avec les côtés positifs qu'elle peut avoir aussi, hein, elle finit par assez mal décrire la situation de la Suisse contemporaine, qui est quand même très métropolisée, très urbanisée. Alors évidemment, beaucoup de Genevois, de Zurichois ou de Bernois adorent aller à la montagne, ils ont toujours quelque part un lien un peu affectif ou familial avec la montagne, mais c'est quand même pas un pays de montagnards, principalement. Donc je crois que les Suisses sont assez conscients de ça et savent cultiver l'essentiel, c'est-à-dire plutôt la référence à la culture politique.
Alors culture politique, là aussi, restons sur le cas suisse qui me semble-t-il est intéressant par rapport au thème de cette émission et au sujet que vous développez l'un et l'autre. Comment expliquer dans cette Suisse qui est un pays de migration, je crois, hein, vous le rappeliez très rapidement au début de cette conversation, que, alors faut-il l'appeler l'extrême droite ou le populisme xénophobe, en tous les cas le parti de l'Union du Centre, hein, je crois que c'est son ça. Nom, est devenu le premier parti de Suisse.
Oui, alors écoutez, ça fait partie de la tendance qu'on observe un peu partout en Europe. On sait qu'il y a en gros entre un quart et un cinquième de l'électorat dans la plupart des pays européens qui est tenté par les populismes de droite. L'UDC n'est pas le parti le plus à droite de la droite et de l'extrême droite en Europe. Il a su se maintenir des distances avec des thématiques bien connues par ailleurs, comme l'antisémitisme en particulier. Ceci dit, c'est un parti xénophobe, indiscutablement. Il surfe un peu sur la vague de la xénophobie européenne actuelle, tout en le faisant dans un contexte un peu délicat, où finalement il y a une part importante de la population résidente en Suisse qui est de nationalité étrangère, et parfois de plusieurs générations, parce que la naturalisation en Suisse est un processus assez compliqué. Donc il y a finalement un assez fort, je dirais presque électorat potentiel, du côté des gens qui ne sont pas des électeurs parce qu'ils n'ont pas la citoyenneté helvétique, mais qui sont parfois aussi partie prenante de cette xénophobie. Donc il y a une sorte de paradoxe très très curieux, et je crois qu'il faut surtout insister sur le caractère très très populiste et un peu méfiant que le parti un peu développe et qui complique énormément les relations entre la Suisse et l'Union européenne notamment, oui.
Populiste, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que vous voulez dire qu'il peut y avoir populisme sans xénophobie et xénophobie sans populisme, Bernard?
Ah oui, je pense. Oui, la xénophobie n'est qu'une des façons de cultiver le populisme et de l'exploiter sur le mode politique. Il se trouve que la plupart du temps, les deux choses sont associées, mais le populisme peut aussi porter sur d'autres objets que le rejet de l'étranger.
Et qu'est-ce que ça dit selon vous, cette résurgence du populisme et de la xénophobie en Europe, qu'est-ce que ça dit précisément de ces identités collectives et de l'importance du territoire ou de l'espace dans les identités collectives? Ou peut-être que ça n'en dit rien d'ailleurs.
Je pense que ça, c'est un phénomène de réaction au sens propre du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est une réaction collective par rapport à l'évolution d'une réalité. Le sociologue allemand Ulrich Beck parle de la cosmopolitisation de la réalité pour désigner l'évolution de nos sociétés contemporaines qui sont de plus en plus amenées à brasser des individus ayant des trajectoires et puis des référents culturels hétérogènes. Donc cette cosmopolitisation, on la voit partout dans le monde aujourd'hui. Les formes de réaction, elles existent partout dans le monde et en Europe, plus particulièrement sur le mode du repli sur des formes d'identité qui auraient précédé justement ce brassage des populations. Donc c'est un mouvement assez binaire, assez élémentaire, qui montre que nos sociétés ne sont pas véritablement prêtes, disons en totalité, une partie oui, mais pas en totalité, à un vrai cosmopolitisme politique.
En même temps, vous rappeliez que, en tout cas, mesuré à l'aune des résultats électoraux, c'est entre un quart et un cinquième de l'électorat, donc on a plutôt l'impression que c'est une minorité qui a l'air de considérer que les identités nationales seraient menacées par l'afflux très important depuis un an de réfugiés. Quels sont les ressorts pour le géographe culturel que vous êtes de cette proposition selon laquelle l'altérité menace l'identité?
J'aurais du mal à dire que l'altérité menace l'identité parce que les deux choses sont évidemment indissociables. Il n'y a pas d'identité sans altérité, il n'y a pas d'altérité sans identité, donc les deux choses vont de pair. Et l'identité n'est pas une mauvaise chose en soi, tout comme l'altérité n'est pas forcément le pendant d'une bonne ou d'une mauvaise chose. Je crois que nos sociétés contemporaines se caractérisent aujourd'hui par une sorte de démultiplication des référents identitaires possibles. Alors que pendant très longtemps, vous parliez de l'État-nation tout à l'heure, on avait cette figure dominante qui était celle qui nous permettait quelque part de constituer des sociétés nationales avec un référent étatique et territorial commun pour tous. Aujourd'hui, ce référent continue d'exister, mais ça n'est pas le seul. Donc, il y a une diversification incroyable des façons de se penser collectivement. Il semblerait qu'aujourd'hui, on ait tendance à cultiver la référence nationale et l'imaginaire national et les identités nationales essentiellement sur le mode de la réaction et rarement sur le mode de la proposition. Mais il y a plusieurs façons, encore une fois, d'invoquer quand même l'imaginaire national ou l'identité nationale.
Est-ce que vous diriez, Jean-François Stazac, que par rapport à vos travaux sur l'exotisme, vous auriez le sentiment que xénophobie et exotisme sont les deux faces d'une même réalité ?
Oui, je crois qu'on peut le dire ainsi. Vous disiez, est-ce que l'altérité est un danger pour l'identité ? Je crois pas qu'elle est un danger, parce que plus l'autre est désigné en tant que tel, plus l'identité est renforcée. Et inversement. Alors, exotisme et xénophobie sont deux réactions différentes, peut-être pas si différentes que ça au fond, par rapport à l'altérité, par rapport à la différence. Dans les deux cas, on fait une différence très claire entre nous et les autres, une dichotomie entre nous et les autres, voire une hiérarchie entre nous et les autres. Et puis, dans un cas, l'exotisme, eh bien, l'autre, on le trouve charmant, désirable, alors que dans l'autre cas, la xénophobie, on le trouve détestable et puis haïssable. Mais la haine et l'amour, ça peut être aussi proche que l'identité et l'altérité. Et très souvent, la fascination pour l'ailleurs suscite en même temps du désir et de la répulsion. La figure en Polynésie de la vaïnée et du cannibale offre comme ça la face blanche et la face noire, si je puis dire, d'un même imaginaire, d'un côté très attractif, de l'autre côté très répulsif.
Là, c'est le spécialiste de Gauguin qui nous parle.
Voilà, j'avais Gauguin en tête, effectivement. Et au fond, c'est le même imaginaire qui parle, mais qui présente simplement deux facettes.
Et pourtant, vous dites dans votre dernier livre, Cliché exotique, que l'exotisme est toxique. C'est une formule très forte.
Oui, alors déjà, c'est parce que c'est un petit jeu de mots. Il y a les mêmes lettres dans les deux mots. Mais au-delà de ça, il y a l'idée que on a l'impression que l'exotisme, c'est quelque chose qui renvoie à un pittoresque de bazar, quelque chose d'assez aimable ou au fond d'assez innocent. Et on mesure pas forcément les effets de l'exotisme ou les effets de la fascination pour l'exotisme. Alors, la toxicité de l'exotisme, je la vois moins dans le tourisme, dont j'ai une vision plutôt positive, que dans la colonisation elle-même. L'exotisme, le moment de l'exotisme, c'est le moment de la colonisation. Et l'exotisme a été un des moteurs. Le désir d'exotisme a été un désir d'aventure, désir de voyage, a été un des moteurs de la colonisation. On le voit bien si on regarde, par exemple, les affiches qui étaient collées sur les murs pour inciter les jeunes gens à s'engager dans l'armée coloniale. Le premier argument, c'était « vous connaîtrez l'aventure, vous connaîtrez l'ailleurs ». Et ces affiches montraient des jeunes femmes plus ou moins déshabillées, des paysages archétypaux et attirants. Donc oui, je crois que l'exotisme peut être toxique. Il est toxique aussi parce qu'il transforme l'autre et l'ailleurs en objet de désir et en objet de consommation, voire en objet qu'on peut marchander et acheter.
L'exotisme, c'est pas s'éloigner du tourisme, ça, pourtant, non ?
Non, être certaines formes de tourisme, comme le tourisme sexuel, par exemple. Si on accepte l'idée, qui est, je crois, très juste, qu'il y a un lien entre l'érotisme et l'exotisme, eh bien, l'exotisme est un des moteurs du tourisme sexuel.
Je vous propose d'écouter un reportage récent qui a été réalisé en République centrafricaine par Jean-Christophe Granger. C'était dans Qu'importe le chemin, le 22 août 2011.
Quand vous marchez pendant des jours en forêt sans rien voir, tout d'un coup, à un moment donné, vous entendez des espèces de cris tyroliens, là, des chants tyroliens, et c'est les pygmées en fait qui vous ont aperçu, qui commencent à crier en général pour vous accueillir. C'est des gens très très gais, très souriants, les pygmées, vraiment des gens sympas. Et vous entendez ces chants tyroliens en pleine jungle, vous êtes harassés, piqués de partout, des sensibles sur les mollets, et vous découvrez ce que j'ai essayé de décrire dans mon livre, en effet, cette une espèce de clairière circulaire où il y a des huttes qui sont toutes rondes. Et là, ils vivent là. Ah oui, c'était vraiment, on marchait en apesanteur là-bas parce que la nuit tombait. Ils ont tout de suite voulu danser pour nous accueillir. Ils avaient des ceintures de feuilles, les dents taillées en pointe. Oui, je pense qu'à l'heure actuelle, on était au maximum de ce qu'on peut faire existant encore sur Terre comme exotisme sauvage.
Alors, pas mort, l'exotisme, Jean-François Stazac, et ça veut dire quoi, l'exotisme sauvage? Et je rappelle, c'est un extrait d'un reportage, par ailleurs très intéressant, diffusé en août 2011.
Oui, ça nous montre qu'il y a encore des explorateurs, ou en tout cas des gens qui se présentent comme tels, et puis des terres qui sont explorées par ceux-ci. Je crois qu'il y a deux grandes figures de l'altérité et de l'exotisme. L'une, c'est le sauvage, et l'autre, le barbare. Alors, le sauvage, c'est celui qui vit encore dans la forêt, hein, c'est son étymologie, il est proche de la nature. Il vit comme un animal, il ne fait pas cuire sa viande, il est tout nu ou presque, avec une ceinture de feuilles. Et il n'a pas de civilisation. Alors on peut en avoir une vision positive, hein. Aujourd'hui on le verra très proche de la nature avec laquelle il vit en communion, ou une vision très négative, hein, parce qu'il n'est pas encore civilisé. Et puis il y a l'autre figure qui est peut-être plus d'actualité, qui est la figure du barbare. Alors là on se rend bien compte qu'il est civilisé, le barbare, mais il est civilisé d'une façon qui n'est pas la bonne. Et donc c'est le mythe de l'orientalisme, avec cette idée qu'il y a des civilisations différentes, autres, et qui se complaisent dans le paganisme, dans la torture, qui maltraitent leurs femmes, etc. Et donc des formes de civilisation déviées ou déviantes qui sont aussi exotiques, hein, au fond, parce qu'elles nous fascinent, mais aussi parce qu'elles nous rassurent sur notre propre supériorité.
Vous diriez, Bernard de Barbieux, Jean-François Stazac, que ce qui s'est, comment dire, que les réactions suscitées par le harcèlement sexuel collectif dont ont été victimes un grand nombre de femmes à Cologne lors de la Saint-Sylvestre, donc 2015. Hein, et je rappelle que à ce jour, il y a près de 700 plaintes qui ont été déposées. Est-ce que c'est en écho avec cet orientalisme dont parlait Jean-François Stazac, et peut-être faudrait-il le définir rapidement pour que vous puissiez utilement répondre à cette question, Bernard de Barbieux?
Je ne suis pas sûr de pouvoir être certain de ce qu'on peut dire à ce sujet-là. D'abord parce que je pense qu'on manque toujours beaucoup, beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé, sur ce qui a conduit à ce qui s'est passé. On peut s'en tenir simplement à la façon dont la chose a été traitée avec peu d'informations par les journalistes ou dans les discussions un peu de comptoir que j'ai pu entendre depuis. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'avec extrêmement peu d'informations et simplement une sorte de vague identification ethnique, entre guillemets, hein, des personnes incriminées dans ces incidents, quantité de fantasmes ont été réveillés. Et c'est en ça que vous avez raison probablement d'invoquer la référence à l'exotisme, parce que ça renvoyait un petit peu à ce que Jean-François Stazac évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette façon de parler de l'Orient, de parler du monde arabo-musulman au 19e siècle, au début du 20e siècle, avec tous les fantasmes sexuels qui sont autour. Alors c'est ce qui ressort beaucoup, hein, dans les travaux qui ont été faits sur l'orientalisme. Par Saïd en particulier, avec toujours cette ambivalence dont parlait Jean-François Stazac tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois l'attirance pour des environnements, des mondes où la sexualité semble plus ouverte, avec les rituels de séduction très différents de ceux qu'on pouvait avoir en Occident au XIXe siècle, et en même temps les craintes qui sont associées à ça, notamment le statut de la femme dont on parlait tout à l'heure.
Mais alors là, on serait un peu à front renversé, justement, par rapport à cette figure dans l'orientalisme que vous évoquiez à l'instant, Bernard de Barbieux. Si j'ai bien entendu, dans l'orientalisme, parmi les figures ou les formes de l'orientalisme, il y a le fait que la sexualité y serait plus lascive. Et là, on serait dans un écho finalement inversé, puisque on a pu entendre, après les événements de Cologne, que la sexualité, notamment masculine, dans le monde arabe, serait très bridée, très frustrée, et expliquerait, ou en tout cas rendrait compte de ces phénomènes de harcèlement sexuel, Jean-François Sadak.
Oui, je dirais pas que dans l'orientalisme, il y a l'idée qu'il y a davantage de lascivité. C'est plus paradoxal que ça. Il y a simplement l'idée que la sexualité prend des formes qui sont anormales. Et ces formes anormales, ça peut être des formes de sous-sexualité, en quelque sorte. Hein. Par exemple, on va montrer que l'homme oriental est efféminé, impuissant, volontiers sodomite. Ou des formes de sur-sexualité, où on va le montrer parfois très violent, violeur, etc. Et la même chose pour les femmes. Hein. Il y a cette idée que la femme orientale, elle est très lascive, elle est esclave de sa sensualité, etc. Donc il y a cette idée qu'il y a comme une forme normale, un genre masculin et féminin normaux, incarné par l'homme et la femme blanche, une sexualité normale, incarnée par la norme européenne, et puis que l'Orient nous offre des formes déviantes. Alors, formes déviantes qui présentent un intérêt pour le voyageur, parce que ça lui permet d'assouvir là-bas des fantasmes qu'il n'ose pas assouvir ici, et puis aussi qui sont intéressantes en termes de culture coloniale, parce que ça justifie la présence des colons, hein, avec ce mythe hein, que la colonisation, ce sont des hommes blancs qui sont allés sauver la femme de couleur, de l'homme de couleur, qui sont allés la sauver du harem, par exemple, ou de l'esclavage. Et c'est sûr que les événements de Cologne ont eu une caisse de résonance impressionnante dans les médias, mais c'est aussi une caisse de résonance historique, parce que c'est des discours qu'on a entendus hein, depuis plusieurs siècles à propos de l'homme oriental. Alors, ce qui n'enlève rien à la réalité des événements sur lesquels je ne me prononce pas.
Est-ce que c'est pour ça que vous insistez beaucoup, et là encore une fois, votre dernier livre, Cliché exotique, est un livre de photographie que vous commentez. Est-ce que c'est pour ça que vous insistez beaucoup, disais-je, donc sur la culture visuelle et l'imaginaire de l'ailleurs dans cette géographie des identités ?
Alors, je crois qu'il y a eu une véritable explosion d'images à la fin du 19e siècle liée à la culture coloniale. Et que l'ailleurs, l'Empire, les Européens n'en avaient pas d'expérience directe. Il n'y avait que des récits, éventuellement des gravures, peut-être des objets qu'on ramenait. Mais que l'invention et la diffusion de la photographie a mis à disposition, avec un effet de réel très très fort, cet ailleurs. Alors bien sûr, ces photographies ne sont pas des reflets du réel. Hein, elles sont tout au plus le reflet d'un regard ou le reflet d'un désir, mais qui étaient effectivement confondues avec la réalité.
Est-ce qu'il y a quelques grandes très caractéristique de ces photographies exotiques que vous pourriez nous livrer.
Alors ces photographies exotiques, elles jouent effectivement sur des fantasmes, c'est-à-dire sont des photographes qui sont dans des lieux de destination du tourisme de l'époque. Alors ça va être le Caire, ça va être Istanbul, ça va être les chutes du Niagara, et ils veulent donner aux touristes de passage, qui sont des gens fortunés, des images qui correspondent à leurs attentes. Il faut bien les vendre, ces photographies. Et donc ils photographient en fait moins la réalité qu'ils ont sous les yeux que les fantasmes des touristes ou les fantasmes qu'ils attribuent aux touristes et qui vont mettre en scène à l'extérieur ou à l'intérieur des studios en fabriquant de toutes pièces des scènes conformes à l'imaginaire des Occidentaux, des scènes qui sont aussi conformes à l'histoire de l'art occidental, à l'histoire de la composition et puis à l'histoire des tableaux orientalistes. Les deux traditions se confondent. Alors, on va y retrouver les figures du barbare, on va y retrouver les figures du sauvage et puis des figures érotiques aussi, hein, spécialement. Là, on va montrer la femme déshabillée, soumise, sous différents prétextes. Ça peut être la femme au bain, ça peut être la femme sauvage dans la forêt qui vit évidemment dénudée, etc. Donc on rend l'ailleurs et l'autre désirable.
Donc là, Bernard de Barbieux, Jean-François Stazac vient de nous parler de la manière dont à une certaine époque, pas très lointaine, on pensait le monde par l'intermédiaire des images. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et si oui, comment?
Alors moi, j'aurais tendance à, non pas à minorer le rôle des images, mais à plutôt considérer que l'explosion d'images dont parlait Jean-François Sazak est principalement une illustration de choses qui existaient déjà. Donc la plupart des illustrations photographiques de la fin du 19e et l'explosion des images contemporaines viennent conforter des schèmes en fait qu'on avait antérieurement, qui notamment sur ces rapports de civilisation et la façon de se penser en termes d'identité et d'altérité, qui remontent pour beaucoup au siècle des Lumières, avec beaucoup moins d'images évidemment que maintenant. Encore une fois, ces images sont venues d'abord et avant tout conforter des choses et donner quelque part des raisons de bonnes raisons d'avoir pensé ce qu'on avait pensé un petit peu depuis longtemps. C'est pour ça que moi, l'usage que j'ai de la notion d'imaginaire est un peu décalé par rapport à celui que peut en avoir Jean-François Stazac, qui est plutôt de m'intéresser à l'imaginaire social, l'imaginaire structurant, qui est beaucoup plus structuré autour de questions de valeurs et de questions de codes sociaux. Si on reprend l'illustration tout à l'heure des événements de Cologne et puis la référence à cet imaginaire orientaliste à partir desquels les événements ont été interprétés, il me semble que ce qui était en jeu, c'était d'abord et avant tout la façon de penser les rapports entre les hommes et les femmes dans deux civilisations, en caricaturant évidemment ce distinguo. Et il me semble que justement la façon de penser le rapport entre les hommes et les femmes, qu'on lui donne une image ou qu'on lui donne pas d'image, fait partie de cet imaginaire social.
Mais alors, néanmoins, avec image ou sans image, ce qui me paraît important, me semble-t-il, ou en tout cas ce que j'entends dans vos propos, c'est que c'est référé, on va dire, à des valeurs qui sont situées, localisées. Mmh. Est-ce que du coup, l'espace joue un rôle, ou le territoire même joue un rôle qui vous paraît structurant ou instituant, pour reprendre votre expression, dans cette manière qu'on peut voir en ce moment, en particulier en Europe, de dire « il y a nous, il y a eux ».
Alors, il l'était d'une certaine façon, effectivement, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, dans la mesure où les aires culturelles qui étaient constitutives de ces entités dont on a parlé depuis tout à l'heure étaient relativement périmétrées. Donc, il y avait une sorte d'assise spatiale, d'assise géographique à ces systèmes de valeurs et donc aux sociétés correspondantes. Donc, on pouvait assez facilement établir une correspondance entre, en gros, des aires géographiques, les systèmes de valeurs et les imaginaires sociaux correspondants. Aujourd'hui, paradoxalement, on a le sentiment que ça se délie un peu, qu'on a affaire à des formes de diffusion et de différenciation très très fortes des systèmes de valeurs au sein d'une même société et dans des mêmes lieux finalement, voire des proximités croissantes et dans des lieux qui sont extrêmement distants à la surface de la Terre, avec un potentiel donc de mélange, d'hybridation, de floutage finalement un peu généralisé de cet ancrage géographique de ces systèmes de valeurs et de ces imaginaires sociaux. Et comme on le disait depuis le début de l'émission, avec cette propension finalement à penser les choses sur un mode de la réaction ou à agir sur le mode de la réaction, c'est-à-dire à revenir et à s'accrocher finalement à cette vision un peu élémentaire de cette géographie du monde finalement, un peu sur le modèle du clash des civilisations, de Huntington ou ce genre de choses, c'est-à-dire des représentations qui quelque part sont dans la droite lignée de ce qu'on avait pu penser au XVIIIe siècle et qui ne prennent pas véritablement la mesure de ces brassages absolument incroyables auxquels on assiste dorénavant. Donc ça fait partie encore une fois de ce décalage extrêmement troublant que l'on observe aujourd'hui et vis-à-vis duquel, à mon avis, beaucoup de gens ont beaucoup de mal à se positionner.
Alors que beaucoup de gens aient beaucoup de mal à se positionner, bien entendu, on l'entend, mais est-ce qu'on peut essayer un instant, si j'ose dire, de se mettre dans la tête des autres, c'est-à-dire de ceux qui n'auraient pas de difficulté particulière à se situer par rapport à ce décalage. Du coup, ils sont dans quel imaginaire spatial, territorial, ou à quel type d'espace leur système de valeurs, celui que vous évoquiez à l'instant, réfère-t-il ?
Alors, il peut y avoir deux réponses un peu extrêmes à votre question. Une première réponse qui serait qui correspondrait aux personnes, aux groupements, aux partis, le cas échéant, qui prônent une sorte de mondialisation des valeurs, notamment autour de ces questions de droits de l'homme en particulier, qui font l'objet de très nombreux débats depuis quelques temps. Donc l'idée d'une sorte de lissage des civilisations et des différences qu'on vient d'évoquer. Ça, c'est un premier type de réponse. Un deuxième type de réponse, c'est plutôt, et c'est assez sensible je trouve dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, de vouloir promouvoir ce fameux cosmopolitisme auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse coexister, cohabiter à l'échelle d'un quartier à Paris, à l'échelle de Paris tout entier, à l'échelle d'un pays tout entier, avec justement cette pluralité de références culturelles, voire de systèmes de valeurs, et apprendre à inventer une sorte de méta-système de valeurs qui soit capable de les faire cohabiter et coexister. Il me semble qu'on est un peu sur ces deux scénarios-là, on est en plein imaginaire encore une fois, hein, ça ne veut pas dire forcément que ça peut prendre des formes tout à fait concrètes, en tout cas pas toujours à la hauteur de ce que les discours pourraient laisser penser, mais il me semble qu'on est un peu dans cette alternative, avec à chaque fois beaucoup d'espace au bout du compte. Dans un premier cas, une sorte de référence à l'espace mondial qui serait un espace, encore une fois, d'unification, d'harmonisation généralisée. Et dans le cas du cosmopolitisme, la possibilité d'imaginer des espaces extrêmement fractionnés sur le mode des quartiers ethniques, par exemple, comme dans une ville comme New York, et qui a servi de modèle, comme vous le savez, depuis longtemps, où on peut imaginer une cohabitation de quantités de communautés qui, à la fois, partagent suffisamment de choses pour cohabiter et, en même temps, travaillent la singularité de leur référence propre.
Et est-ce que vous diriez, puisque vous évoquiez à plusieurs reprises la mondialisation et donc un espace mondial, qu'il y aurait comme référent géographique à ce cosmopolitisme, l'idée qu'il pourrait y avoir une société mondiale. Est-ce que pour vous, ça permet justement d'aller jusqu'à dire cela ?
Alors, on trouve l'expression, on trouve l'idée dans des mouvements ou des sensibilités qui pourtant au premier chef semblent extrêmement disparates, du côté de l'élite néolibérale qui promeut quelque part cette vision d'une société qui soit mondiale et néolibérale dans toutes les parties de la planète. On le trouve également dans le mouvement altermondialiste qui évidemment s'opposait pour l'essentiel aux arguments des apôtres du néolibéralisme, mais qui eux-mêmes aussi prenaient une société mondiale extrêmement coordonnée, notamment dans sa réaction au néolibéralisme. On le trouve du côté des mouvements environnementalistes également, qui eux aussi cherchent à prôner une sorte de société mondiale tout en développant des formes d'ancrage à l'échelle des entités naturelles pour lesquelles on aurait une responsabilité accrue à assurer. Donc finalement, il y a une sorte d'éventail absolument étonnant de sensibilité politique qui prône l'échelle mondiale et qui prône l'avènement d'une société mondiale. Je crois que c'est pas ça qui fait véritablement débat. Ce qui fait débat, c'est quelle société, quel type de rapport entre les individus de la société en question et, le cas échéant, quel type de rapport entre cette société et son environnement naturel, pour reprendre l'exemple des écologistes.
Vous diriez, Bernard de Barbieux, que l'humanité est une société ou peut faire société tout entière et en tant que
telle ? Elle peut le faire potentiellement, elle n'en est pas là. Ceci dit, il y a une sorte de grande inconnue qui subsiste et qui nous ramène véritablement à l'intitulé de cette émission d'aujourd'hui. Si une société mondiale devait émerger en tant que telle, quelle forme d'identité serait-elle capable de développer si elle n'a pas une altérité vis-à-vis de laquelle concevoir cette identité ?
Alors, on peut bien sûr travailler. Les extraterrestres.
Alors, c'est aussi pour ça qu'on les imagine beaucoup depuis quelques décennies. Si un jour ils se manifestent de façon plus évidente, peut-être que ça répondra à la question. Mais dans l'état actuel des choses, c'est extrêmement difficile d'imaginer, comme on le disait tout à l'heure, une identité sans altérité. Donc là, pour le moment, l'altérité, elle ne peut pas être humaine, elle serait non humaine, ce qui peut nous renvoyer à la nature, ou ce qui nous renvoie éventuellement à d'autres formes d'animalité que seraient les extraterrestres.
Mais si je peux rebondir là-dessus, effectivement, les images sont déjà là, c'est-à-dire qu'un grand géographe américain, britannique, qui s'appelle Denis Cosgrove, a expliqué qu'une des images qui avait tout changé dans notre rapport à nous-mêmes, c'était les premières images où on voyait la Terre vue de l'espace et où on s'est rendu compte qu'on habitait tous sur la même planète, et donc qu'on appartenait tous à la même humanité. Alors, après, cette humanité, c'est quoi son autre ? On peut s'interroger, effectivement, à ce propos. Mais il y a déjà une culture visuelle de la Terre comme étant notre vaisseau, comme étant notre maison, qui nous pousse à nous considérer comme formant un seul peuple ou une seule collectivité, qui a en charge aussi les enjeux globaux. Cette idée aussi que la Terre est très fragile et qu'on en est tous collectivement responsables. Mais en vous écoutant, si je peux faire une objection, c'est...
Jean-François Stazac,
il me semble qu'il y a un petit biais dans notre discussion. Alors je sais bien que c'est une émission qui s'appelle Planète Terre et où on donne la parole à des géographes, mais il ne faudrait pas laisser croire que les identités les plus importantes ou les plus prééminentes ou les plus notables sont les identités géographiques ou territoriales ou nationales. Il y a là un biais qui a été dénoncé par plusieurs chercheurs. On peut penser à la question du nationalisme méthodologique.
Ça, c'est Ulrich Beck qui l'a dénoncé.
Ou à la question du piège territorial.
C'est John Agnew.
Absolument. Vous connaissez vos classiques, vous avez mieux révisé que moi.
Je vois bien que vous me testez. Alors, je réponds quand même. Il faut que j'assure ma réputation pour les auditeurs.
Ces identités sont-elles très importantes ? L'ont-elles toujours été ? Le seront-elles toujours ? Il y a des identités de genre qui sont très importantes, il y a des identités religieuses qui sont très importantes, il y a des identités d'âge qui sont importantes également, et c'est pas évident que les identités les plus fortes ou les plus conflictuelles soient celles nécessairement liées au territoire. Alors, comme c'est le fond de commerce des géographes, on a tendance peut-être un peu à les surestimer, et probablement une des raisons pour lesquelles les géographes français se sont si peu intéressés pendant longtemps aux enjeux de genre, c'est qu'ils étaient focalisés sur la question du territoire et des enjeux territoriaux. Alors bien sûr, les uns et les autres sont pas totalement déconnectés. Il y a des territoires masculins et des territoires féminins. Mais je crois qu'on a aussi un peu intérêt à essayer de dénationaliser le débat et à penser nos identités, nos altérités, nos conflits en d'autres termes.
Dénationalisons-le, alors, puisque l'un et l'autre, et vous en particulier, Bernard de Barbieux, dans votre livre récent, là, qui vient de paraître l'automne dernier, vous faites un retour ou un détour par Jean Gottman, donc grand géographe français des années 50-60, qui a quitté la France pour aller travailler aux États-Unis, et vous expliquez comment finalement il a inventé un concept qui encore aujourd'hui vous paraît très très opératoire, même s'il convient de le critiquer, qui est celui d'iconographie, pour permettre de comprendre à la fois les identités et le rapport au territoire.
Alors, j'aime beaucoup le concept. Le terme, par contre, n'est pas très heureux, je pense, parce que pour la plupart d'entre nous, quand on pense iconographie, on pense à autre chose que ce que Gottman imagine. Pour lui, iconographie, c'est un système de symboles.
Il a écrit au début des
années
50, et puis, il pensait en anglais, d'ailleurs, à ce moment-là, déjà.
Voilà, et je ne sais pas exactement quel était le sens du mot iconographie dans les années 50, hein, mais c'est vrai qu'on utilise le terme un peu différemment aujourd'hui. Juste pour les auditeurs, donc, Gottman parle d'iconographie pour désigner le système de symboles, mais qui ne sont pas tous iconiques. Hein, donc, ça peut être des symboles un peu différents, ça peut être aussi la langue, par exemple, tout simplement. Qui permettent de stabiliser ce qu'ils considèrent être comme étant éminemment fluide, c'est-à-dire les flux de l'immigration de personnes, la circulation des biens, des marchandises, de l'argent et autres. Et il fait une démonstration tout à fait lumineuse, je trouve, de finalement l'histoire des États-nations, dont l'essentiel du travail a consisté à essayer de sédentariser à la fois les personnes, l'argent, la production, quantité de choses, et du côté des personnes, de se servir d'un système de symboles pour créer de l'attachement au lieu, au sens le plus évident du terme, mais aussi au territoire national, qui serait une addition de lieux ou un lieu à lui tout seul.
Donc on invente des symboles, si je comprends bien, enfin disons les élites étatiques inventent des symboles pour faire accepter les frontières en fait.
Alors, et puis surtout pour construire les frontières dans le même temps, hein, parce que tout cela est évidemment tout à fait contemporain.
Pour éviter que les gens aient envie de les franchir, de bouger, et du coup l'Europe, on comprend mieux maintenant, à la lumière de ce que vous venez de nous dire, pourquoi la construction européenne est considérée comme très menaçante pour ceux qui sont très attachés aux identités nationales.
Alors c'est vrai que Gottman incrimine beaucoup, parce qu'il est très critique finalement, avec un vocabulaire un peu différent de celui qu'on utiliserait aujourd'hui pour parler du nationalisme, il est très critique par rapport à cette histoire, et c'est vrai qu'il incrimine beaucoup le rôle de l'État. Les travaux ultérieurs, aussi bien chez les historiens et chez les géographes, ont relativisé un petit peu la capacité tout simplement de l'État à mettre en place un système pareil et finalement aussi fructueux, et ont insisté notamment sur le rôle des élites culturelles, des élites intellectuelles, notamment les défenseurs des langues nationales, qui jouent un rôle extrêmement important au XVIIIe et au XIXe siècle. On connaît tous l'exemple allemand. C'est pas forcément des grands administrateurs, c'est pas forcément des gens des gouvernements, des princes et des rois. Il y a, c'est vrai, une sorte de grande sensibilité qui traverse l'Europe au XIXe siècle en particulier, pour produire du symbole et pour produire du symbole qui ancre effectivement les collectifs. Alors, tout au bénéfice, bien sûr, de ces États qui se mettent en place, notamment ceux qui se mettent en place au XIXe siècle, mais ce n'est pas un processus uniquement et purement étatique.
Et c'est un processus qui n'est peut-être pas totalement terminé. Écoutons un instant, c'était sur France Inter en décembre 2008, dans Là-bas, si j'y suis. Comment Daniel Mermet interrogeait des tenants de ce qu'on appelle la Padanie, le nord de l'Italie.
Andrea, que j'ai rencontré il y a longtemps, il a fondé une association,
Terra Insubre,
qui s'occupe de l'histoire de la Lombardie du Nord, c'est ça, et notamment de valoriser le passé celtique de la Lombardie.
La Padania è stata anche celtica.
La Padania è aussi celtique.
Milano è stata fondata dai Galli Insubri e moltissime città della Padania sono state fondate dai Celti.
Milano è stata fondée par un tribù de Gaulois.
Insubri.
Insubri e beaucoup de villes del nord dell'Italia ont été fondées par les Celti.
Bologna, per esempio.
Bologna, par exemple.
È stata fondata dai Galli Boi.
È stata fondée par un altro tribù de Gaulois, qui sono le Gaulois della tribù dei Boi.
Ma in realtà la Padania, come le regioni della Francia, è un incrocio di latini, celti e germani.
Ma in realtà la Padania, come beaucoup de regioni della Francia, è un croisement entre latin, celt e allemand, germano, saxon.
Infatti i nostri dialetti padani, sono chiamati dai linguisti dialetti gallo-italici o gallo-francesi.
Nos dialectes de la Padanie sont appelés par les linguistes des dialectes gallo-celtiques.
Gallo-italiques.
Gallo-italiques.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Alors Bernardo Barbieux, la Padanie, mythe ou réalité ?
Alors, vous savez que j'aime pas trop poser le mythe et la réalité. Hein. La réalité est pleine de mythes et le mythe produit du réel. Donc, c'est évidemment les deux choses à la fois. Ce que je trouve absolument fascinant dans l'exemple de la Padanie, et qui est quelque part un peu emblématique de ce qui se passe dans beaucoup d'autres régions du monde et d'Europe en particulier aujourd'hui, c'est que, à la fois, ça singe complètement la construction de ces imaginaires nationaux qui ont permis à l'Italie de devenir l'Italie, à la France de devenir la France, à l'Allemagne de devenir l'Allemagne. Donc, quelque part, de chercher à toujours tirer un peu les mêmes ficelles pour réinventer de nouvelles entités dont on aurait aurait besoin si on est effectivement en délicatesse avec les États-nations comme le sont les militants du mouvement Padan. Et l'autre chose, c'est que ces mouvements-là sont en général extrêmement bien informés des recherches en sciences sociales. Et ça a été montré notamment par une jeune, maintenant docteur, hein, de Lausanne, qui a travaillé sur ce mouvement-là, qui s'appelle Martina Avanza, j'espère que je n'abîme pas son nom. Elle a très bien montré que les intellectuels de ce mouvement Padan avaient énormément lu toute la littérature critique sur la construction de l'État-nation ou l'invention de la tradition, hein, pour parler comme Hobsbawm, et on réutilisait finalement le mécanisme qui avait été déconstruit par ces historiens ou par ces politologues ou ces géographes pour le mettre au service d'un projet comme celui-ci. Donc à la fois, on est dans la parfaite continuité, on est dans la réflexivité, qui puise fondamentalement dans les connaissances de sciences sociales. Et puis on est sur quelque chose aussi d'extrêmement important pour l'Europe, qui est la recomposition des échelles, qui fait qu'on voit émerger aujourd'hui, au moins dans le discours, et des fois un peu plus que dans le discours, des entités qui ne sont pas celles des États-nations, qui sont subnationales ou qui sont transnationales, et qui peuvent être portées finalement par des discours qui sont aussi mobilisateurs que ceux qui ont prévalu dans l'émergence des États-nations.
Juste un petit point, est-ce que vous êtes en train de nous dire implicitement, Bernard de Barbieux, que ce qu'on vient d'entendre sur les origines celtes de la Padanie et donc ce celtisme qui permettrait plusieurs siècles après de fonder légitimement un État padan, ça c'est de la réalité?
Alors, je sais pas si c'est fiable, hein, comme source historique, le rôle du peuplement celtique, mais vous savez que ce type d'argument, il est utilisé en Bretagne, il est utilisé dans les îles britanniques, il est utilisé dans d'autres régions du monde, et puis les Français ont bien fait référence à ces inévitables Gaulois, un peu sur le même mode. Alors, on n'est pas du tout en train de tester de construire ou de tester une quelconque forme de réalité historique. On invoque la longue durée parce qu'on estime que c'est ça qui donne une légitimité à un projet politique contemporain. Et c'est en ça qu'on est tout à fait dans cet imaginaire du territoire et de l'histoire, parce que les deux choses vont ensemble, qui fondaient les États-nations du 19e.
Est-ce que pour vous, Jean-François Stazac, c'est une illustration très actuelle de ce que vous expliquez dans vos travaux sur l'exotisme, à savoir que l'imaginaire géographique est efficace?
Alors, il est efficace tant qu'il est solide et tant qu'on y croit. Hein. La force des mythes, elle réside dans leur capacité à nous convaincre et à nous faire agir en fonction de cela. C'est toute la question du performatif ou de la performance, c'est-à-dire notre imaginaire, il nous donne une vision de la réalité, il nous propose des images, il nous propose un discours ou un savoir sur la réalité, mais en fait, plutôt que de décrire le réel, il le produit. Et donc notre
vous pouvez bien nous expliquer ça, parce que évidemment, ça colle pas du tout, c'est totalement contre-intuitif par rapport à l'intuition ou à l'expérience qu'on a, non seulement enfin, de la géographie en particulier, mais d'autres sciences sociales. Vous dites que l'imaginaire géographique construit le réel et ne l'étudie pas.
Ben, un exemple assez évident qu'en connaissent bien les professeurs d'histoire-géographie, c'est l'exemple du découpage continental. Il nous semble être une évidence, et on a l'impression que quand on parle de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie ou de l'Europe, on est en train de décrire la réalité d'une façon qui est évidente. Ça se verrait que le monde se découpe en continents, alors qu'en fait c'est une façon de penser qui est très récente et qui est remplie d'incohérences, hein, puisque quasiment aucun des continents ne répond à la définition canonique du continent. Donc les continents n'étaient pas des choses qui existaient là, en dehors, dans l'attente patiente que quelqu'un un jour les découvre. Ils ont été fabriqués par un discours géographique, par des images, par des stéréotypes, qui ont d'ailleurs pour une bonne part une composante raciste, hein, puisque africain c'est un euphémisme pour noir, etc. Donc là on a un exemple de quelque chose qu'on croit être une description du monde, alors qu'en fait c'est une production du monde ou une production d'une certaine vision du monde. Et c'est le cas de tous nos discours ou de toutes nos images qu'on a tendance à penser comme des reflets du monde, alors qu'elles reflètent plutôt un regard, des attentes, des espoirs, des craintes, des fantasmes, etc.
Qu'en pense Bernard de Barbieux, qui dit tout à l'heure qu'il ne faut pas opposer mythe et réalité, mais qu'il y a du mythe dans la réalité et vice-versa?
Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, pour moi l'imaginaire social est instituant, c'est lui qui fait les sociétés. Les sociétés reposent sur une base imaginaire qui est plutôt faite de valeurs, hein, comme je le disais tout à l'heure, une sorte d'ensemble de références communes qui ont, de mon point de vue, et c'est en ça que j'ai essayé d'apporter une contribution plus spécialement de géographe, toujours une dimension spatiale, une dimension territoriale, même si c'est pas toujours ça qui est mis en avant par d'autres auteurs qui travaillent sur les imaginaires sociaux. Donc l'imaginaire, je suis bien d'accord avec Jean-François Tsatsac, il est instituant, il est constitutif de la réalité sociale, et il n'y a pas de réalité sociale sans qu'il y ait une sorte de fond commun de référence qui compose cet imaginaire. Donc je suis tout à fait sur la même ligne.
Et est-ce que vous diriez que les sciences, tout court, les sciences sociales et la géographie ou l'anthropologie, sont, comment dire, ont réussi à se tirer de ce piège-là. Pour vous poser la question, pour illustrer pourquoi je me pose cette question, je voudrais vous faire entendre un autre extrait, l'extrait d'un entretien que Jean Mallory avait accordé à Ruth Stegassi dans l'émission Terre à Terre, ma consoeur donc, qu'on peut entendre tous les samedis matins de 7h à 8h. C'était le 3 mai 2008.
Ma vie a changé, a basculé. Je m'excuse de revenir sur ce moment de ma vie. J'étais seul étranger lorsque je me suis approché du général de l'US Air Force pour me présenter. J'avais des longs cheveux. Je n'avais pas vu de blanc depuis des mois. Nous avions tué un ours. Quand j'entendais parler de légende absolument singulière d'homme qui se transformait en phoque, et il est devant moi, il me dit « Vous êtes français ?» Qui vous autorise à être sur une base américaine ultra secrète? Oh, je dis, mon général, mais qui vous autorise à être sur un territoire inuit? C'était un homme intelligent, il s'est retiré sous sa tente. Quelques secondes après, t'arrives à net de camp. You are released, vous êtes libre. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis isolé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les Inuits étaient abandonnés. En fait, cette base est restée ultra secrète pendant 300. J'étais le seul témoin, j'étais appelé à revenir au Sud, et j'ai décidé de m'engager pour les Inuits, donc de sortir de cette réserve que je comprends chez les scientifiques, et de m'engager dans la défense de ces minorités qui, incontestablement, dans cette action, me provoquaient.
Alors Jean Mallory, grand scientifique s'il en est, fondateur de la fameuse collection Terre humaine chez Plon. Alors, Jean-François Tsatsac, est-ce qu'il se déprend de l'exotisme ou est-ce qu'au contraire, il l'alimente?
Les deux sûrement, selon le point de vue. Moi, ce qui m'a frappé dans l'extrait, c'est qu'il conteste, on conteste sa présence sur une base américaine, il conteste la présence de la base américaine sur le territoire inuit, mais il n'a pas l'air de questionner sa propre présence à lui, Jean Mallory, sur le territoire inuit. Et c'est sûr que la démarche de l'anthropologie, si elle consiste à aller expliquer de l'extérieur des peuples qu'on trouve fascinants et bizarres parce qu'ils ont des mœurs curieuses, c'est vraiment la démarche de l'exotisme. Mais en même temps, peut-être qu'en les expliquant, en faisant comprendre qu'ils ont leur logique, qu'elle est respectable et qu'elle n'est pas plus absurde ni moins absurde que la nôtre, eh bien on réduit le gouffre entre nous et les autres et donc on va contre l'exotisme. Sans doute l'exotisme, c'est une fatalité. C'est une fatalité au sens où dès qu'il y a l'identité, il y a de l'altérité. Cette altérité, on la regarde toujours avec ambiguïté. C'est pas forcément négatif. Je veux dire, il vaut mieux être intéressé par l'autre, avoir envie d'aller le visiter plutôt que de le chasser ou de l'exterminer. Donc, faut pas non plus avoir une vision trop caricaturale des choses. Et dans l'anthropologie, j'imagine qu'il y a aussi le pire et le meilleur. Notre rôle, je pense, en tant que géographe, c'est pas d'essayer de détruire l'exotisme ou d'en détruire les ressorts, c'est de faire comprendre comment il fonctionne. Je suis moi-même un touriste, hein, moi aussi, et je pense que c'est le cas de beaucoup de géographes, et une partie de notre vocation de géographe, je crois que Bernard de Barbieux ne sera pas d'accord avec moi là-dessus, mais une partie de notre vocation de géographe, elle est dans cette fascination, hein, devant l'autre et l'ailleurs. On a rêvé adolescent devant des cartes, des films ou des images, et donc il faut commencer à balayer devant notre porte, je crois aussi.
Alors Bernard de Barbieux, pas d'accord ?
Donc je suis peut-être pas d'accord avec Jean-François sur une vision très très optimiste et très positive du tourisme en général. Non pas que je ne sois pas touriste moi-même, on l'est évidemment pour beaucoup d'entre nous assez régulièrement. Ce qui me gêne simplement dans la pratique touristique, c'est son côté superficiel et donc la tendance, dans la plupart des cas, et donc le risque que ça représente de simplement conforter des sortes d'images, de stéréotypes qu'on pourrait avoir au préalable, sans être capable, faute de temps ou faute de moyens, simplement une fois sur place, de les questionner, de les remettre en cause et de faire progresser finalement ce projet cosmopolitique auquel je faisais référence tout à l'heure.
Alors, on a commencé l'émission sur une évocation non seulement de Pegida, mais disons de flux migratoires à la fois très importants en nombre et de façon qui peut paraître inhabituelle aux Européens. Bon, on a un peu oublié dans notre mémoire collective que l'Europe a pourtant l'habitude, enfin l'habitude peut-être pas, mais en tous les cas que c'est vraiment pas la première occurrence, ces 100 ou 120 dernières années de flux migratoires très importants. Les derniers remontent évidemment aux années 1943-48. Mais pour voir les choses sous l'angle cette fois des migrants, est-ce que vous diriez l'un et l'autre que ces migrations internationales apportent ou créent, produisent de nouvelles formes spatiales et donc à partir desquelles on pourrait peut-être parvenir à mieux négocier des changements d'identité? Bernard de Barbieux.
Alors j'en suis convaincu, pas simplement parce qu'elles sont récentes, simplement parce qu'elles se produisent et elles se cultivent de façon différente par rapport à ce qui se passait il y a encore quelques décennies. C'est-à-dire que le brassage des populations n'est, comme vous le soulignez tout à l'heure, pas forcément plus intense aujourd'hui qu'il n'était au milieu du XXe siècle, au début du XXe siècle. Simplement aujourd'hui on dispose de quantités d'instruments, notamment les communications à distance, et en particulier bien sûr l'Internet, qui permettent à des populations migrantes de garder des liens à distance extrêmement structurants, auxquels elles devaient renoncer il y a quelques décennies, à la fois sous l'injonction de l'intégration, qui était le leitmotiv des politiques nationales, mais aussi parce que tout simplement elles étaient coupées de leur environnement culturel traditionnel. Donc on a affaire effectivement à des formes spatiales nouvelles, dans la mesure où c'est beaucoup des migrants d'aujourd'hui, y compris d'ailleurs les Européens quand ils vont ailleurs dans le monde, bien sûr, via Skype et autre chose, activent des formes spatiales de communication qui leur permettent de cultiver des liens à distance qu'ils ne pouvaient pas faire il y a quelques décennies. Et en même temps, là où les gens sont aujourd'hui, ils peuvent aussi travailler des formes de, appelons ça des territorialités, de territorialités locales qui peuvent prendre la forme d'un quartier, qui peuvent être un quartier plus ou moins spécialisé, par exemple, dans une ville qui voudrait aussi se penser comme étant un agencement de quartiers un peu dits ethniques. Donc ça, c'est des formes tout à fait émergentes et qui ont des chances de se développer, de se déployer à l'avenir un peu partout dans le monde.
Mais précisément, on peut entendre dire, je pense par exemple aux travaux de Jean-Christophe Guillouis, autre géographe, il peut y avoir, disons, des discours ou des analyses plus ou moins étayées consistant à dire que, bah, justement, ce que vous venez de décrire, Bernard de Barbieux, ça joue contre le cosmopolitisme, puisque ça invite les individus concernés à ne pas, disons, se connecter davantage au lieu où ils habitent, parce qu'ils restent plus facilement qu'avant connectés au lieu d'où ils viennent. Qu'est-ce que vous pensez de ça, l'un et l'autre, Jean-François Stazac?
Alors, la question de la communauté ou du communautarisme, elle est un peu piégée en France, je trouvais, en français, à cause des connotations du terme. On a toujours l'impression que le communautarisme, c'est une dérive ou c'est quelque chose de négatif.
Et je rappelle au passage que vous êtes deux géographes qui vous êtes installés à Genève, donc d'une certaine manière, scientifiquement, vous êtes dans le cadre de votre vie professionnelle des migrants. Mais ça me fait aussi penser que vous avez l'un et l'autre décidé, dans un passé relativement récent, d'aller travailler comme scientifique pendant une année entière aux États-Unis. Pas forcément ensemble et en même temps, hein, que ça soit clair pour les auditeurs, mais vous l'avez fait chacun de votre côté. Voilà, je ferme cette parenthèse, Jean-François Stazac.
Alors, c'est vrai que mon expérience professionnelle et celle de la Suisse ou celle des États-Unis, c'est celle d'un décentrement et que j'ai appris à mieux me connaître ou à mieux connaître la France parce que j'ai regardé de l'extérieur. Et ma remarque sur le communautarisme, elle est pour une bonne part liée à mon expérience américaine, hein, où le communautarisme, c'est pas un gros mot, alors qu'en France, je trouve que ça l'est un peu trop. On a l'impression en France que l'identité communautaire, c'est l'identité de l'autre, hein, qui aurait comme une identité qui est acceptable, qui est valorisée, puis quand la revendication identitaire vient d'ailleurs, c'est une revendication qui est taxée d'être communautariste. Je pense qu'il y a des changements là aussi et qu'il y a de l'espoir dans le communautarisme, dans les revendications des identités communautaires qui peuvent être minoritaires, qui ne peuvent ne pas être dominantes et qui peuvent se faire avec des formes d'hybridation, de métissage, de transgression avec de l'invention. On vit peut-être dans un monde où les choses sont moins stables qu'elles ne l'étaient dans le passé. Peut-être ça a à voir avec le fait que l'information circule davantage et avec le brassage, hein, des populations. Mais je pense que si on accepte l'idée que les identités ne sont pas des choses figées, si on accepte d'avoir une vision anti-essentialiste des identités, c'est-à-dire de penser que l'identité, c'est pas parce qu'on possède tel caractère qu'on possède telle identité, mais que ça, c'est une construction, hein, que ça, c'est déclaratif, que ça procède de la volonté de chacun, on peut être davantage optimiste.
Vous diriez, Bernard de Barbieux, que du point de vue des identités collectives territoriales, le monde sera comment dans 30 ans, en 2050 ?
Je pense qu'il sera très hétérogène à toutes les échelles. On ne va pas du tout dans le sens d'une homogénéisation qui fait partie de ces fantasmes de la mondialisation contemporaine. Au contraire, on aura une très grande hétérogénéité, mais qui ne sera pas uniquement ou principalement une hétérogénéité sous forme de grandes aires culturelles, plus ou moins juxtaposées, éventuellement en conflit. Je reviens encore une fois au scénario du clash des civilisations.
Mais par contre, Samuel Huntington,
voilà. Mais avec des différenciations un peu à toutes les échelles, à des échelles de proximité, au sein des territoires nationaux, à l'échelle continentale, le cas échéant aussi, et que c'est par ce biais-là et par la capacité des individus contemporains à mobiliser plusieurs registres d'identité et simultanément plusieurs registres de territorialité. Et ça aussi, à mon avis, ça va croître un peu partout dans le monde aujourd'hui, qu'on pourra avoir ces formes d'ancrage et ces formes d'investissement sociaux et politiques extrêmement, extrêmement différenciés. Pour le dire autrement, je crois plus du tout au modèle de l'homme ou de la femme monolithique qui, parce qu'il habite en France, quelle que soit la trajectoire de sa famille ou sa trajectoire personnelle, devrait être identique à son voisin parce qu'il habite en France et il a éventuellement la même nationalité que lui. Je pense qu'aujourd'hui, on va vers une diversification des façons d'être français, des façons d'être italien, et le cas échéant, être français d'un côté ou être de son quartier de l'autre, tout en ayant des attaches avec un pays dans lequel il a habité 3 ans ou bien dont sa famille sera originaire.
Vous le voyez déjà, ça, à l'œuvre ?
Absolument, absolument. Et je crois que ça existe déjà très fortement en France, mais on veut pas trop le voir, précisément par la crainte et ce fantasme du communautarisme dont parlait Jean-François Stazac. Mais on le voit beaucoup plus, avec beaucoup plus de fierté, quelque part assumée, dans des pays évidemment comme les États-Unis ou le Canada.
Et s'agissant, je sais pas, d'un pays comme l'Inde, qui est évidemment un pays multilingue, ou d'un pays comme la Chine, qui lui, au contraire, essaie de surjouer le côté très grand État-nation. J'ai évidemment pris ces deux pays parce que c'est les deux plus peuplés et qui vont avoir une place très importante en 2050. Là aussi, vous la voyez, cette évolution ?
Absolument, sur deux modes différents, encore une fois, parce que l'Inde, comme vous le dites très bien, est vraiment pluriculturelle, ce qui est théoriquement le cas de la Chine, mais avec une ethnie très, très dominante qui change un peu la donne. Moi, ce qui me frappe dans l'exemple indien, c'est qu'à la fois, on a cette extraordinaire diversité à l'échelle du territoire indien, et en même temps, ce qu'on appelle cette communauté émigrée indienne de par le monde, qui joue un rôle extrêmement important dans les ancrages familiaux et relationnels, où ce qui compte à ce moment-là, c'est d'être indien, et c'est pas d'être du Kerala, et c'est pas d'être du Tamil Nadu, ou d'être du Bengale.
On en restera sur cette évocation du Tamil Nadu. Et on termine Planète Terre avec une autre évocation, celle des monstres effrayants, n'est-ce pas ? David Bowie, Scary Monsters, c'était Identité collective et altérité, la fabrique des imaginaires avec Bernard de Barbieux, auteur de l'espace de l'imaginaire, j'arrive à le dire, publié au CNRS en 2015, et Jean-François Stazac, lui-même co-auteur de Clichés exotiques, le tour du monde en photographie, édité également en 2015 aux éditions de Monza. Merci beaucoup à tous les deux pour vos précieux éclairages, et je rappelle à tous les auditeurs que les liens vers vos publications sont sur le site web de France Culture, à la page Planète Terre. Luc-Jean Reynaud, Pierrick Monsigny, Catherine Madure et la documentation sonore de Radio France nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de l'émission. Demain, jeudi, à 16h, la marche des sciences d'Aurélie Luneau évoquera Olivier Sachs, neurologue de génie. Mais, je voudrais surtout vous parler de samedi prochain, puisque samedi, ne manquez pas le forum de France Culture, l'année vue par les sciences. À la Sorbonne, il y aura 5 débats passionnants sur le thème de l'humain dans tous ses états. J'animerai la première de ces tables rondes, c'est à 10h. Tout le programme est sur le site de France Culture. J'espère vivement vous y retrouver. L'entrée est libre et gratuite, bien sûr, comme chaque année. C'est la 4e édition. Mais il faut absolument que vous vous inscriviez à l'adresse suivante, tout attaché. auditeurfranceculture@radiofrance.com. Je répète, auditeurfranceculture@radiofrance.com. Vous pouvez aussi le faire par téléphone au 01 56 40 37 53. 01 56 40 37 53. Et puis l'émission, bien sûr, vous pouvez la podcaster, la réécouter en ligne et la commenter sur le site de franceculture.fr, sur Facebook et sur Twitter.